Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus et pour cette nouvelle chronique jeu du mois, je suis accompagné par BenoFX. Bonjour BenoFX.
Bonjour Cyrus, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour la rentrée sur Proxy Jeux.
Bienvenue parmi nous, BenoFX pour commencer, puisque BenoFX vient de rejoindre l'équipe de Proxy Jeux cette année. Alors, pour ce mois-ci, nous allons parler de deux jeux, du coup, deux personnes, donc deux jeux. On va parler de Captain Sonar, dans un premier temps, et puis de...
Scythe, j'espère que je prononce bien.
Ah, alors, ça, la question que je me posais, justement, est-ce qu'on prononce Scythe, est-ce qu'on prononce Scythe?
Alors, moi, je prononçais Scythe comme un bon francophone de base. Et on m'a dit que... Enfin, je me suis renseigné avant la chronique, quand même, un minimum. Et a priori, c'est Scythe, avec le S qu'on apprend à faire à l'école, là. Le TH avec la langue entre les dents.
Ok. Alors, du coup, on va l'épeler pour nos auditeurs. Parce que je me rappelle qu'on avait discuté ensemble, tu m'as dit, ah, je vais présenter Scythe. Alors, j'ai fait, Scythe, c'est
qu'est-ce
quoi?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et tu m'as dit, mais le bolos, quoi, le mec. Attends, Scythe, quoi.
Connais pas
tout
Scythe,
le monde
quoi.
En parle en ce moment. Tu
mais
connais
ça
pas
fait le
Scythe?
buzz.
Je me dis, merde, mais c'est quoi ça? Je fais, ah oui!
Scythe.
Scythe.
Oui, parce qu'il y en a qui disent Scythe aussi, enfin il y a un peu toutes les prononciations, mais je crois que la vraie prononciation c'est Scythe. Et donc ça s'écrit Scythe.
Ok, bon. Et ben je vous propose de commencer par Captain Sonar. Alors, Captain Sonar, donc c'est plutôt moi qui vais en parler,
ouais.
Même si BenoFX, tu y as déjà joué, je
ouais,
crois.
J'ai déjà joué, ouais. Ouais, j'ai déjà joué.
Ok.
J'ai déjà fait une partie en fait, découverte, mais bon, c'est une partie découverte qui est intense tout de suite, hein.
Ok. Alors Captain Sonar, c'est un jeu de Roberto Fraga et Johan Lemonnier. C'est un jeu édité chez les éditions Matago pour 2 à 8 joueurs. Alors en fait, c'est un jeu de communication dans lequel deux équipes de sous-mariniers vont s'affronter. Donc, chaque équipe est à bord d'un sous-marin. Les équipes sont composées de 4 rôles différents. En fait, chaque joueur va avoir un rôle bien précis dans le sous-marin. Il va y avoir un capitaine, un second, un mécano et un sonar. Donc, chaque rôle précis. Alors déjà, là, vous devez vous dire... Là, normalement, t'aurais dû réagir. T'aurais dû me dire, attends, tu m'as dit de 2 à 8 joueurs et tu me dis, il y a deux équipes de 4. Ah, ça
Ouais.
va pas, là. alors effectivement, on peut jouer à moins. On peut jouer à moins, et dans ce cas-là, il y a des gens qui vont jouer plusieurs rôles. En fait, c'est surtout le capitaine qui va accumuler les rôles, parce que si on joue à 3 dans une équipe, le capitaine va également prendre le rôle de second. Si on joue à 2 par équipe, il va accumuler le rôle de second et le rôle de mécano. Et on peut éventuellement jouer à 2. Je vais expliquer un peu comment. On peut éventuellement jouer à 2 et dans ce cas-là, effectivement, on va accumuler tous les rôles.
Ça doit être
Alors,
compliqué tout ça.
ouais, ça va être un peu compliqué. En fait, il y a deux façons de jouer. Il y a une façon de jouer en tour par tour et une façon de jouer en temps réel. Alors, le principe du jeu, c'est d'abattre le sous-marin adverse. Donc, à bord du sous-marin, et on va se déplacer dans un périmètre. Qui est bien quadrillé. En fait, chaque joueur, chaque capitaine a le plan de la zone d'opération. Il va pouvoir déplacer son sous-marin dedans. Il va d'abord dire bah voilà, je démarre ici. Et puis ensuite, il va indiquer. C'est lui qui va indiquer à l'équipage dans quelle direction va aller le sous-marin. Donc il va dire cap au nord, cap à l'est, cap à l'ouest ou cap au sud. Donc en face, l'équipe adverse va entendre. C'est-à-dire que le sonar, celui qui écoute l'équipe adverse, va donc repérer le déplacement.
Va tracer le chemin.
Exactement, il va tracer le chemin. Et comment ça fonctionne en fait? On a donc le capitaine a une carte, donc il va faire le tracé sur sa carte, alors que le sonar, lui, va faire le tracé sur un transparent, au-dessus de la carte.
Tout ça marche avec des Velleda, c'est ça? Enfin, c'est des choses effaçables et on peut tracer.
Voilà, c'est ça, ouais. Le transparent, en fait, on écrit dessus avec des Velleda et donc on peut effacer à tout moment. Et en fait, surtout le sonar, lui, au bout d'un moment, en fait, il va avoir un tracé. Et sur le terrain d'opération, il y a des îles. Évidemment, le sous-marin ne peut pas traverser les îles. Donc, ça va lui donner des repères. Quand il va déplacer le transparent sur la carte, il va y avoir des zones en fait, où le chemin ne peut pas correspondre, puisque ça voudrait dire que le sous-marin a traversé une île. Et ainsi de suite, enfin, de proche en proche, comme ça, plus on va avancer dans la partie, plus il va avoir une indication, et il va pouvoir repérer le sous-marin adverse.
Ouais, et recaler du coup par rapport à sa position de départ,
Voilà.
et du coup en déduire sa position actuelle.
Exactement. Et c'est là qu'interviennent, entre guillemets, les autres rôles. Le second, lui, va avoir pour objectif de remplir des jauges. Il va remplir des jauges qui représentent les
Différents modules
du
sous-marin.
sous-marin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois grands types de modules. Il y a des modules de repérage du sous-marin adverse. Il y a des modules offensifs qui permettent de poser des mines et de lancer des torpilles. Et il y a un troisième module qui est le module spécial dans lequel, pour la chronique, je parlerai uniquement du système de silencieux qui va permettre au sous-marin de ne pas indiquer son déplacement.
Pendant un certain nombre de tours, est-ce ça?
Voilà, sur un tour. Et le mécano, lui, va avoir pour rôle le rôle le plus ingrat, je dirais en fait, puisque, en tout cas, le plus mal vu, sûrement de l'équipe, puisque lui, il va devoir dire, enfin, choisir quel système subit une avarie à chaque déplacement. Donc en fait, il a un plan du sous-marin, et puis quand le capitaine dit cap au nord, il y a une zone du sous-marin qui correspond au déplacement vers le nord, et dans laquelle il va devoir cocher une case qui va dire, ben voilà, il est plus possible d'utiliser les modules offensifs, par exemple. Ou alors il est plus possible d'utiliser les modules de repérage.
Peut être très très embêtant à certains moments de la partie.
Et effectivement, c'est très très embêtant. Et c'est là que toute la communication va devoir prendre place, puisque le capitaine va devoir se rapprocher, si possible, de l'équipe adverse, du sous-marin adverse, ou s'en éloigner s'il pense être en mauvaise posture. Le second, lui, va devoir essayer de remplir les jauges en répondant aux demandes du capitaine, puisque si le capitaine ne sait pas où est l'équipe adverse, bah, le but, ça va plutôt être de remplir des jauges pour des modules de repérage. Alors que quand on sait où est l'équipe adverse, on va plutôt avoir envie de remplir des modules offensifs.
Oui, parce que le but du jeu, c'est quand même de détruire le sous-marin adverse.
C'est ça. Et le mécano à côté, lui, va entre guillemets dégrader le sous-marin. Donc, au moment où le capitaine va vouloir, par exemple, utiliser un module offensif, il va falloir et que la jauge du module offensif en question soit remplie et qu'aucune case correspondant au module offensif ne soit cochée dans le sous-marin par le mécano. Tout ça en temps réel.
Ouais.
Voilà.
Ce qui fait que quand
Donc,
on voit une partie d'extérieur, c'est un peu un joyeux bordel.
ouais, c'est un joyeux bordel. Alors, si vous avez pu vous rendre sur des festivals, le jeu tourne pas mal en ce moment, et effectivement, près de ces tableaux-là, il y a de l'animation. Bah, c'est complètement le côté Roberto
Ouais.
Fraga sur le jeu. Très, 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 très débridé. Alors, bon, voilà, ça c'est pour les règles. Bon, je vous invite à regarder la vidéo qu'a fait Matago, en fait, pour expliquer les règles, qui est très, très bien faite. Ce sera sûrement beaucoup plus clair et beaucoup plus visuel, parce que le jeu n'est pas forcément évident à expliquer comme ça. Ce qu'il faut en retenir de ce jeu, donc c'est un jeu de communication qui joue soit en temps réel, soit en tour par tour. Donc en tour par tour, tout de suite, ça va devenir beaucoup plus bataille navale, un peu améliorée certes, mais pour y avoir joué en tour par tour, je trouve que ça perd beaucoup de son intérêt. En tout cas, c'est mon avis. J'y ai joué en club. Les joueurs ont absolument voulu pour leur première partie faire une partie en tour par tour. J'avais déjà joué auparavant, j'aurais dit bon. Ok, faisons une partie en tour par tour. Bon. Voilà,
Vous
on a fait
étiez à
une partie
combien?
en tour par tour. On était 6
Ah oui,
en plus.
donc
Voilà,
ça aurait pu se jouer
je
en
vais y
temps réel.
revenir. Ouais. Voilà, déjà, premier avertissement, moi je trouve que c'est moins intéressant en tour par tour. Maintenant, voilà, c'est plus tactique, certes, mais je trouve ça un peu moins intéressant. En tout cas, on perd beaucoup l'aspect fun en fait du jeu. Voilà. On perd l'aspect communication parce que là on va beaucoup discuter en disant ok alors toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On a le
Ouais,
temps en fait de
y a pas le
discuter.
côté tendu,
Et
le
voilà.
stress, on sent pas le stress. Qui retranscrit bien l'effet d'un vrai sous-marin en temps de guerre, quoi.
Voilà, exactement. Quand on joue en tour par tour, on va chaque équipe va faire un déplacement, chacun son tour. Du coup, en fait, on est complètement sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Alors que quand on joue en temps réel, à chaque fois que le capitaine donne un ordre dans une direction, en fait, le sous-marin avance. Donc, en gros, plus le capitaine est capable de donner d'ordre, et plus on va vite dans le jeu. Et après, c'est pas le tout d'aller vite, évidemment. Puisque si après on n'est pas capable de lancer les torpilles et on n'est pas capable de repérer l'adversaire, ça pose des problèmes.
Oui, il faut un très bon sonar aussi, parce que c'est souvent là que le bât blesse. Moi, quand j'ai joué, c'est vrai que on avait du mal à savoir où étaient nos adversaires, alors que eux savaient très bien où on était, et ça fait toute la différence aussi.
Et c'est ça qui est drôle aussi en fait, parce que des fois tu vas avoir dans ton équipe un truc, enfin voilà, tu vas avoir une partie de l'équipe qui joue bien, puis t'en as un qui est complètement à la ramasse.
Qui fout la merde.
Le sonar, pour le coup, il est un peu tout seul. Autant les autres, ils peuvent discuter entre eux,
oui.
Entre guillemets, se rattraper l'un l'autre. Il y en a un qui fait ah non, mais surtout coche pas. Enfin voilà, le second,
ouais.
Mais surtout coche pas les trucs rouges, tu peux cocher d'autres choses. Et alors que le sonar, il est un peu livré face à lui-même, mais il est tout seul, quoi. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui, effectivement. Et tu peux avoir des parties où le sonar, il va être extra, puis d'autres fois où le sonar, il va être complètement à la ramasse.
Ouais.
Et en fait, tu vas être juste en train d'essayer d'éviter l'adversaire parce que tu sais absolument pas toi où il est. Ah ouais, bref. Ouais, bon, enfin, vous comprenez que j'aime beaucoup le jeu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, surtout à 8. Voilà, à 8 en temps réel. En tour par tour, déjà, je trouve que ça perd de l'intérêt. Un autre warning que je donne, c'est aussi, c'est pas un jeu de simulation. Attention, ce n'est pas du tout un jeu de simulation de guerre.
Oui.
Parce que j'ai joué les deux, enfin, j'ai joué deux fois deux parties, en fait. Et donc les deux fois en fait il y avait une personne autour de la table qui voulait absolument que ce soit un jeu de simulation, du coup qui comprenait pas certaines choses qui étaient en fait des simplifications pour le gameplay, c'est-à-dire que par exemple il comprenait pas qu'en silencieux on coche quand même une case qui provoque une avarie entre guillemets thématiquement dans le sous-marin. Ce qui me disait, mais non, mais attends, on est en silencieux, on est en économie des moteurs et tout, on peut pas créer une avarie.
Oui, déjà
oui,
de toute façon.
Mais c'est les règles du jeu, mec.
Créer une avarie à chaque déplacement, c'est purement pour le gameplay, c'est pas une simulation. Si tous les sous-marins, à chaque fois qu'ils bougeaient de 100 mètres, ils avaient une avarie, très mal barré quand même.
Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà, enfin ça et d'autres choses, quoi. Donc, du coup, voilà. Sachez que ce n'est pas un jeu de simulation, c'est pas un wargame, même si ça peut en avoir certains aspects, c'est pas du tout un wargame.
Ça simule bien la sensation de tension, en tout cas, qu'il peut y avoir dans ce genre de situation.
Ah bah là, complètement. Alors là, ça peut partir en grosses engueulades. Hein. Enfin, j'en ai vu vraiment se gueuler dessus, quoi, parce que ça marchait pas, quoi.
On a vu ça à Ludinor aussi, il y a un couple qui jouait dans la même équipe, et donc la femme du couple était le sonar, et elle était perdue, la pauvre, elle savait pas où était le sous-marin de l'air, et son mari qui lui criait dessus, mais où ils sont, mais où ils sont? Et il était capitaine, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on sait pas où ils sont? On peut rien faire! Et c'était, ouais, de l'extérieur, c'est drôle après, je sais pas comment ça s'est fini.
S'ils sont encore ensemble, quoi.
Ouais, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que ouais. ça peut créer des tensions, hein. Si on se prend vraiment au jeu, et si on oublie un peu que le côté
que
fun
c'est un
du
jeu.
Truc, ouais, c'est, ouais. Ça peut être très, très frustrant de pas avoir les bonnes infos au bon moment.
Enfin, ça, il faut le savoir, ça peut créer des disputes. Et puis, je trouve aussi que le jeu perd de l'intérêt. Plus on enlève des joueurs, en fait, et plus on perd de l'intérêt dans le jeu. À 8, c'est la configuration idéale. Je trouve qu'à 6, ça joue encore bien. Même si, effectivement, on perd, en fait, on perd la perte en ligne, en fait, qui existe entre le capitaine et le mécano. Parce qu'en fait, le capitaine, c'est lui qui va indiquer les caps. Et c'est le mécano en fait qui coche des cases en fonction du cap en fait. C'est-à-dire que y a des moments en fait le mécano il va avoir envie de dire au capitaine ah il faudra aller à l'est parce que ça m'arrange en fait.
Mais il peut pas forcément. Ouais.
Je sais pas tout t'expliquer mais grosso modo quand on a coché une certaine série de cases grosso modo on peut effacer cette série de cases. Donc du coup, de temps en temps, le mécano dit « Ah, ce serait bien qu'on aille à l'est, parce que comme ça, je pourrais effacer une partie des cases cochées. » Du coup, comme le capitaine il est un peu loin, il faut qu'il le dise au second, qu'il doit le retransmettre au capitaine. Donc quand on a 6, forcément, il n'y a plus cette configuration-là, donc il n'y a plus cette perte en ligne. Du coup, c'est un peu plus facile, et
ouais.
Du coup, c'est un peu moins fun.
Et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le capitaine n'a pas le droit de croiser son trait. C'est-à-dire qu'à la manière du Snake, un peu comme on jouait sur le téléphone, il va créer un chemin, il n'a jamais le droit de recroiser son trait. Donc c'est vrai qu'au
oui,
bout d'un moment, ça devient assez compliqué pour les directions. Et c'est là aussi où quand le mécano dit qu'il faudrait aller à l'est, le capitaine peut dire bah non, là on ne peut pas aller à l'est parce qu'on est en train de suivre un trajet qu'on a déjà fait et on ne peut pas le recroiser. Donc,
ah, c'est ça. Alors il y a une île à l'est, ou alors
ouais.
Il est au bord de la carte aussi.
C'est ça.
Sachez que ce n'est pas très bien de se promener au bord de la carte parce que c'est embêtant, ça limite les possibilités
de déplacement.
Déplacement.
Ouais. On se retrouve dans un coin, généralement c'est mal barré.
Voilà, alors évidemment, il y a des. Bon, j'ai pas tout expliqué pour simplifier, mais bon, il y a une possibilité de faire surface, ça permet d'effacer le tracé, et ça permet de nettoyer aussi un peu de nettoyer le sous-marin, je crois. Je crois
Oui.
qu'on décoche aussi les
Ouais,
cases.
quand on revient à la surface, on doit donner une information aux adversaires, mais on efface tout en fait, on décoche toutes
Voilà.
les cases du mécano, ça permet de repartir un peu. Ouais, je crois qu'on donne une zone en fait, c'est quadrillé avec plusieurs zones et on donne l'information de la zone où on est.
Voilà, donc du coup, bah, moi c'est un jeu que je vous recommande, surtout à jouer à 8, comme vous l'aurez compris, en simultané. Alors, si vous voulez, effectivement, faites une partie en tour par tour au début, ce qui se faisait pas mal, je crois, sur les salons, je crois qu'ils faisaient démarrer les parties en tour par tour,
Oui,
et
sur les
puis
premiers tours,
une
ouais.
fois que les parties, enfin, une fois que les gens avaient bien tilté, bah voilà, ils les faisaient jouer
En temps
direct.
réel, ouais. Ce qu'on a fait nous aussi, on a fait deux ou trois tours en tour par tour pour bien assimiler tout, parce que c'est vrai que jouer en temps réel, sa première partie, quand on vient à peine de t'expliquer le jeu, tu peux être très vite perdu quand même.
Bah, tu peux faire des erreurs en fait.
Ouais.
Il faut, du coup, il faut accepter. De toute façon, il y a souvent des erreurs. Enfin, moi, j'ai vu souvent des erreurs de fait, hein. Il faut accepter que ces erreurs, elles soient là, et puis voilà quoi.
C'est pas un jeu où on peut vérifier à tout moment si tout est bien fait, parce que ça va tellement vite que forcément il y en a qui oublient de cocher ou qui cochent une case en plus ou qui voilà qui oublient. Enfin, ça fait partie du jeu aussi. Ouais.
Je trouve aussi. Ouais. Voilà, donc moi je vous recommande le jeu. Toi, tu t'en as pensé quoi du haut de tes une ou deux parties que t'as fait?
Ben moi j'ai pris du plaisir. J'ai fait qu'une partie, hein, mais je me suis beaucoup amusé, même si on s'est fait rétamer la gueule. On a voilà, il y a un nombre de points de vie, je sais plus si c'est 3 ou 4, enfin
Il y
il
en a
faut être
quatre.
touché 4 fois pour perdre la partie. On s'est fait toucher 4 fois, on a réussi à les toucher une fois, je crois. Enfin, c'était assez ridicule. Mais ouais, c'est bien tendu. C'est bien, je trouve c'est bien pour les clubs de jeu, pour les bars à jeu, etc. Moi personnellement, je réunir 8 amis, il faut de la place quand même, il faut pas mal de joueurs. Donc je sais pas si moi personnellement je l'achèterai parce que je sais pas quand j'aurai l'occasion de le sortir. Mais oui, jouer dans des clubs de jeu ou dans ce genre de choses, ça s'y prête très très bien parce qu'on peut être facilement 8, il y a de la place. Ça fait du bruit aussi, hein, ça, il faut. S'il y a des bruits
Ouais,
autour
on
et tout,
s'était mis à l'écart.
ça fait un peu de bruit aussi, ouais. Mais non, j'ai beaucoup aimé les sensations, c'est un très bon jeu. J'ai préféré à Docteur Panique, si on reste dans Roberto Fraga, en réel, etc. Je trouve ça beaucoup plus prenant et la thématique me plaît plus aussi, peut-être. Le fait d'être par équipe aussi, ça. Enfin,
C'est un côté plus, c'est un côté plus tactique aussi,
ouais, c'est un
hein,
côté beaucoup plus
c'est.
tactique, ouais. Bon, Docteur Panique est rigolo, hein, j'aime bien aussi, mais ouais, je connais pas tant de jeux en temps réel que ça. Et c'est vrai que Captain Sonar m'a beaucoup plu aussi.
Il y a Space Cadet Dice Duel, je crois, qui pourrait être assez proche. Pour le coup, moi je n'y ai jamais joué, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes de la team qui ont joué.
D'accord. Moi, le seul jeu en temps réel auquel j'avais joué, c'était Temple Run. Enfin, je sais pas si ça s'appelle Temple Run. Non, ou. Enfin, un truc où tu lances des dés, là, tu dois sortir d'un temple. C'est coopératif. Tout le monde lance des dés en même
Escape?
temps. Escape, oui, ça s'appelle Escape. Je sais pas pourquoi j'avais Temple Run. C'est Escape, oui, c'est ça.
Ouais, ben voilà, enfin bref, dans la lignée de ces jeux qui se jouent en temps réel, en fait,
Ouais, c'est vraiment un des
c'est le
meilleurs, quoi.
fun, c'est le fun qui domine, quoi. Et souvent, ben, dans ces jeux-là, il y a des erreurs qui sont faites, mais bon, faut passer outre. Alors, juste pour parler rapidement du matériel, donc le jeu est illustré par Sabrina et Erwin Tobal. Donc je pense que ils doivent être plus ou moins ensemble, ou frères et sœurs.
C'est pas
Je
pareil.
ne me suis pas renseigné, je me suis pas renseigné sur la question. Voilà, je suis pas très people, donc voilà. Si ça vous intéresse, vous regarderez. Donc dans la boîte, on a quand même pas mal de matériel, l'air de rien, parce qu'on a deux énormes paravents, les feutres effaçables, ensuite il y a les fiches. Alors il y a différentes cartes. On peut jouer sur différents terrains d'opération en fait. Ça permet de varier un peu les jeux. Je sais qu'il y a eu des goodies qui sont sortis. Et puis, à mon avis, il y a du goodies qui va se distribuer un peu là-dessus.
Ouais, il y a de quoi faire.
Voilà, et puis il y a des variations en fait. Il y a des cartes sur lesquelles il y a déjà des mines par exemple présentes. Il y a des cartes qui proposent un module spécial supplémentaire, des choses comme ça. Donc voilà, avec des règles spécifiques. Donc le matériel est plutôt bien, les illustrations moi je les trouve sympas, après je suis pas du tout un spécialiste de la question, mais bon moi
Ouais,
je...
il y a des illustrations qui sont surtout fonctionnelles du coup, hein,
Sur tout
sur
ce
les
qui est
cartes et
carte et
tout,
tout
ouais,
ça,
c'est.
ouais voilà.
Non,
C'était...
ça sert bien, ça sert très bien le jeu.
Et puis bah, le paravent, ça me met bien dans l'ambiance. Alors j'attends la bande son, moi. J'attends vraiment la bande son parce
Ouais,
que à mon avis jouer avec
avec
une bande son là-dessus, ça doit être.
le petit
Ah ouais, ça
bip.
doit être. Ouais. Et donc bah voilà, du coup on va rappeler la fiche un peu signalétique du jeu. Donc c'est un jeu de Roberto Fraga et Johan Lemonnier, édité chez les éditions Matago pour 2 à 8 joueurs, donc, que je vous recommande à 8 joueurs, éventuellement 6, et qui est au prix de 34,90 € chez Philibert. Voilà, pour Captain Sonar. On va passer à Scythe.
Passons à Spy. Bon, bah, si vous n'avez pas entendu parler de Scythe, hein, c'est que vous n'étiez pas très connecté ces temps-ci parce que c'est un jeu qui fait pas mal le buzz. Alors, c'est du gros
Ouais,
jeu de
ouais.
stratégie, hein. Donc, c'est un jeu de Jamie Stegmaier, j'espère que je prononce bien.
Ah, t'as révisé Scythe, mais
J'ai
t'as
pas
pas révisé.
révisé, non, mais j'ai révisé l'illustrateur Jacob Rosalski, mais non, Jamie Stegmaier, je pense que ça se prononce comme ça.
je crois.
Donc c'est un auteur à qui on doit déjà Euphoria, je pense que c'est le plus connu par chez nous. Il a fait aussi Viticulture et Toscany
Viticulture, ouais.
avec Alan Stone en fait. Donc je crois que sur Scythe il est tout seul. Euphoria et Viticulture il est avec Alan Stone et ensemble en fait ils ont créé leur maison d'édition qui s'appelle Stone Meyer, donc qui est un.
Normal,
Voilà, qui
une
est une
contraction
contraction
des
de
deux
leurs
noms.
deux noms. Et du coup, c'est un peu des spécialistes. Enfin, Jamie Stegmaier, c'est un peu un spécialiste du Kickstarter. Donc, c'est un jeu qui a été financé via Kickstarter, qui est arrivé là, qui est arrivé il y a quelques temps, il y a à peu près un mois, je crois.
En juillet, je crois.
En juillet, enfin, un an, août, je crois, il arrive courant août. Et donc, c'est un spécialiste du Kickstarter, si bien qu'il a même écrit, il a écrit des bouquins sur le sujet, enfin, en tout cas, un bouquin. Sur le sujet du financement participatif, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. C'est un jeu, c'est assez rare pour le signaler, qui est arrivé un peu en avance par rapport aux prévisions du Kickstarter. Ça, c'est
Il avait pris
plutôt,
de la marge,
il
pas
avait
bête
pris
le
de la
mec.
marge, donc c'est plutôt assez rare. C'est un jeu donc illustré par Jacob Rosalski. Donc c'est un jeu, enfin, je vais faire une parenthèse là-dessus dès le début, qui est assez, enfin, qui est magnifique d'un point de vue illustration et d'un point de vue matériel. Enfin, l'édition est vraiment superbe. En fait, apparemment, Jamie Stegmaier a demandé à Jacob Rosalski de lui créer un thème et un univers pour son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement illustrateur, c'est aussi lui qui a créé le background un peu et l'univers du jeu.
Ouais. C'est déjà son style, je crois, hein, quand même. Hein. C'est le mélange. En fait, l'univers, il va mélanger en gros la vie paysanne, rurale, avec des gros mécas,
Ouais,
ça, des grosses machines.
c'est ça. En fait, le background du jeu, c'est on est en 1920 à la sortie. On est dans une uchronie en fait, dans un univers un peu parallèle. C'est pas vraiment notre monde, mais il y a des similitudes. En fait, on est à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc on est en 1920. Il n'y a pas vraiment eu de vainqueur. Hein. Donc ça a laissé une Europe un peu dévastée, surtout l'Europe de l'Est, parce que le jeu se passe plutôt dans l'Europe de l'Est. Et en fait, pendant la guerre, il y avait des cités-usines qu'ils appellent les factories, qui construisaient justement des gros mecs. Ils appelaient ça des mecs, donc des gros robots en fait, qui servaient à la guerre. Et donc, il y a une de ces usines qui est laissée à l'abandon. Et chaque joueur va représenter en fait une faction, donc une ancienne puissance de l'Europe de l'Est, va représenter un héros en fait de cette puissance et qui va essayer en fait de regagner un territoire, de regagner un peu de popularité auprès des populations. Et donc ce héros, il va se balader sur la carte, il va recruter des petits paysans pour récupérer des ressources et il va aussi recruter des mecs pour combattre. Alors c'est un jeu où il y a pas en fait l'interaction de combat est pas au cœur du jeu. C'est surtout un jeu de développement de ressources où il faut s'étendre sur la carte. Et les mecs sont là pour instaurer une sorte de tension. C'est-à-dire que bon ben on va pas trop aller oser s'attaquer ou en fonction de la puissance de l'adversaire. C'est pas un jeu de, c'est pas un jeu de, c'est pas un jeu de conflit, de combat, hein, clairement pas. Mais il y a cet élément-là qui vient rajouter, qui peut permettre de ralentir un peu la progression des autres, qui peut permettre un peu de mettre la pression sur les autres. Et c'est ça que j'aime bien vraiment. C'est un jeu de stratégie où il va falloir se développer, où il va falloir récolter des ressources pour pouvoir se développer de plus en plus. C'est un jeu qui monte en puissance, hein, au fur et à mesure des tours. Au début, on peut pas, vraiment pas faire grand-chose. Et c'est un jeu assez original puisque en fait chaque faction déjà va avoir certaines particularités. Et en plus, après, à chaque fois qu'on va poser un mec, donc chaque faction a 4 mecs maximum, on peut pas en mettre plus. à chaque fois qu'on va en placer un.
Ah oui, effectivement, donc du coup,
Ouais.
c'est là que c'est un peu limité au niveau guerrier, quoi.
Mais pareil, niveau paysan, je crois, si j'ai peur de dire une connerie, mais on en a deux au départ, et je crois qu'on peut en placer 6 ou 8 de plus.
Ah oui.
Chaque, en fait, il y a des parcelles, c'est un jeu, vous allez voir les images, hein, mais c'est des cases hexagonales. Donc chaque case produit un type de ressource, et donc en mettant ces paysans sur ces cases, on va pouvoir produire des ressources. En fait, on a un petit plateau où il y a 4 zones sur chaque plateau, et sur chaque zone, il y a deux actions qu'on peut faire. Donc c'est-à-dire qu'on vient faire une action, enfin, on vient placer un pion dans une des zones à chaque tour, et on va pouvoir faire une ou deux de ces actions. En fait, il y a des actions en haut, des actions en bas, pour rentrer dans le détail. Et en fait, on ne peut jamais faire deux fois de suite la même action. Donc on vient placer le petit pion, on va faire une des quatre actions, et au prochain tour, on devra déplacer le pion pour faire une autre action.
Pour
L'originalité.
faire potentiellement les deux autres actions en fait, c'est ça? Les deux actions de la case en fait.
Ouais, pour faire, enfin, chaque tour, on fait une ou deux actions. Sachant que les premières actions, en fait, ça va plutôt être pour récolter des ressources, pour évoluer un peu certaines caractéristiques. Et les actions du bas, ça va plutôt être pour recruter soit des paysans, soit pour construire des mecs, soit pour recruter d'autres personnes aussi qui vont nous aider un peu. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais qui vont nous permettre d'avoir des actions un peu bonus. Et ce qui est assez original aussi, c'est que ces actions sont sur des petits plateaux personnels. Et en fait, les combinaisons des deux actions sont différentes sur chacun des plateaux. Et ça,
D'accord.
on va les distribuer aléatoirement au départ. Et donc, il y a des actions qui vont coûter plus cher sur certains plateaux, moins cher sur d'autres. Et ce qui fait qu'à chaque partie, en fait, on va avoir une faction vraiment unique. C'est dur de. Déjà, il y a la spécificité de la faction. Il y a des
En
pouvoirs.
fait, t'as deux paramètres, t'as la faction d'un côté
Et
et
ton
ton
plateau
plateau d'action en
d'action, ouais,
fait.
qui est différent. Donc,
D'accord.
ça fait vraiment une richesse. En fait, c'est un jeu qui, au premier abord, peut paraître très compliqué parce qu'il y a énormément d'éléments. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de manières de scorer, il y a plusieurs pistes, il y a les cartes combat, il y a des cartes de rencontre, il y a les cartes de la factory aussi, puisque en fait toute la carte est articulée autour d'une case centrale qui est la factory, qui est l'ancienne factory où on fabrique des mechas. En fait, tu peux y aller pour récupérer une carte d'action supplémentaire. Donc c'est assez prisé en début de partie. Mais c'est très dur de se développer en début de partie puisque chaque faction est un peu bloquée par une rivière en fait. Et au début, ta faction ne sait pas, enfin, ne peut pas, n'a pas la
Tu sais
technologie
pas
pour
nager, c'est
traverser les
ça?
rivières. Donc il va falloir
D'accord.
développer les premiers mecs. Il y a certains mecs qui peuvent traverser les rivières. Et les mecs en fait
D'accord.
peuvent transporter les paysans. Donc c'est souvent les paysans ne peuvent jamais, enfin à part pouvoir de faction, ne peuvent pas traverser les rivières, donc c'est les mecs qui vont les transporter. Un mec peut transporter autant de paysans qu'on veut. Voilà, c'est un jeu qui paraît compliqué, mais en fait est assez simple, puisqu'à chaque tour de jeu, tu vas te placer sur une action et tu vas faire les actions. Alors les actions, les premières parties sont un peu lourdes à cause de la richesse. C'est pas compliqué, mais il faut penser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de
En
paramètres
fait,
à
le truc
prendre en
aussi, c'est
compte.
que du coup, c'est pas compliqué mécaniquement, mais en fait, t'as plein
Ouais.
d'actions différentes, c'est
Bah,
ça?
il y a énorme... enfin, il n'y a pas tant d'actions différentes que ça, hein, puisque tu as 8 actions, enfin tu as que 8 actions finalement, tu as les 2 actions par case d'action,
Ouais, par case.
mais à chaque fois que tu fais une action, il va se passer des choses, il faut bien vérifier ce que tu dois dépenser, ce que tu vas gagner, est-ce qu'il y a des choses qui se passent chez les adversaires aussi, parce qu'au fur et à mesure de la partie, en fonction de ce que tu vas faire, il va se passer des choses chez les adversaires. Il y a plusieurs pistes à gérer, il y a la piste militaire en fait, où tu vas pouvoir monter ta puissance militaire, et il y a la piste de popularité. Et souvent, quand tu attaques, quand tu fais des actions militaires, tu vas baisser ta popularité. Enfin, il y a un équilibre à trouver là-dessus. En fait, comment on gagne, c'est assez simple. C'est le plus riche à la fin qui gagne. Donc, tu vas gagner des pièces pendant la partie.
D'accord.
Et après, en fait, pendant la partie, tu vas avoir des objectifs. Ces objectifs, quand tu les rempliras, vont te faire placer une étoile.
Parce que j'avais vu ça et justement ça m'avait fait penser à Euphoria, donc je me suis dit est-ce qu'il a récupéré son système de Euphoria de. Je pensais qu'en fait que tu gagnais avec un certain nombre d'étoiles en fait
Ouais,
du coup.
bah ça c'est pareil. C'est-à-dire que le premier qui place ses 6 étoiles, il y a 6 étoiles à placer, va arrêter la partie. Alors c'est pas forcément le vainqueur, hein,
Ah, il met fin à la
mais c'est
partie,
celui qui met
mais
fin à la
d'accord, ouais.
partie. Donc les étoiles, par exemple, si tu attaques quelqu'un, que tu gagnes un combat, tu vas gagner une étoile. Enfin, tu vas pouvoir placer une étoile. Par contre, tu vas pas pouvoir placer une étoile à chaque fois que tu gagnes un combat. C'est des objectifs différents. Donc faut gagner un combat. Si tu fabriques tes 4 mecs tu gagnes une étoile. Si tu recrutes tous tes
D'accord.
paysans, tu gagnes une étoile. Si tu fais toutes les améliorations, parce que le plateau d'action aussi, tu vas pouvoir faire des améliorations pour que les améliorations coûtent moins cher et rapportent plus. Donc si tu fais toutes tes améliorations de ton plateau, tu vas gagner une étoile. Si tu construis tous tes bâtiments, parce qu'il y a une histoire de bâtiments aussi, il n'y en a que 4, c'est assez simple, ils font tous un truc différent, tu vas gagner une étoile. Tu reçois deux objectifs secrets aussi en début de partie, donc là qui sont différents pour tout le monde. Si tu remplis un de ces deux objectifs, tu gagnes une étoile. Donc il y a plusieurs manières de gagner une étoile.
D'accord.
Il y en a plus que 6
Et
d'ailleurs.
du coup, ça donne quoi du coup les étoiles?
Alors voilà, une fois que tu as placé les 6 étoiles, tu mets fin à la partie. Donc comme je t'ai dit, on score sur les pièces. Les pièces, c'est ce que tu auras déjà gagné au cours de la partie. Et après, en fait,
Ça c'est visible du coup ça à
ouais,
tout le monde?
tu sais à peu près, oui, c'est sur les plateaux, donc tu sais la richesse de
Ouais.
chacun. Et en fait, à la fin de la partie, du coup, la fameuse piste de popularité va avoir une influence puisque tu as trois zones dans la piste de popularité. Et en fait, en fonction de la zone où tu es, tu vas scorer un certain nombre de pièces par étoile. Donc je crois que c'est
Ah
2,
oui,
3 et
d'accord.
4. En fait, voilà, si t'es pas très populaire, tes étoiles vont te rapporter que 2 pièces. Si t'es plus populaire, elles vont te rapporter jusqu'à 4 pièces. Et donc c'est le même système
D'accord,
pour ton nombre d'étoiles, pour le nombre de territoires que tu as conquis, enfin sur lequel tu as au moins un
ok.
paysan, un méca ou un bâtiment. Pour le nombre de ressources qui va te rester à la fin de la partie aussi. Donc tout ça, c'est scoré et enfin, les pièces sont en fonction de ta popularité.
C'est toujours la popularité
Ouais, t'as trois.
qui va faire le facteur
C'est ça,
multiplicatif
t'as
en
trois
fait.
niveaux de popularité et qui va définir combien tu scores pour chacun de ces trois éléments. Et après, tu as un
D'accord.
objectif aussi, un objectif tiré au hasard. Tu as des tuiles objectifs qui peuvent être sur le nombre de bâtiments autour de tel type de zone, etc. Donc ça change à chaque partie. C'est la quatrième, en fait, il y a les trois principales, c'est étoile, territoire, ressources. Et tu as cette petite partie de scoring qui change à chaque partie aussi. Donc ça crée, c'est vraiment un jeu très riche. Je pense qu'il y a une courbe d'évolution qui est monumentale parce que, en plus, en fonction des factions, tu vas pas jouer du tout de la même manière. T'as vraiment beaucoup de manières de jouer.
Et du coup, forcément, on se pose la question de l'équilibre quand même dans le jeu, parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments asymétriques
Ouais.
entre les factions, les plateaux, les objectifs. Qu'est-ce que j'oublie d'autre?
Bah, écoute, j'ai fait que 2-3 parties pour le moment. J'ai trouvé ça vraiment plutôt équilibré. Alors, les factions peuvent.
Parce que moi j'ai lu des gens qui sortaient de leur première
Ouais.
partie qui disaient ouais, tel truc c'est trop cheaté. Bon, après ça arrive fréquemment sur les jeux
Ouais, il y a
asymétriques,
des
mais.
factions qui peuvent sembler plus fortes, mais je pense qu'elles sont juste plus faciles à jouer pour un débutant. En fait, les factions ont différents pouvoirs, et donc il y a des factions qui sont utiles en début de partie, et donc qui semblent plus puissantes, puisque tu vas pouvoir. Par exemple, il y a la. Oui, j'ai pas dit.
Tu vas mieux démarrer, du
Ouais, tu
coup,
vas
sur
bien
une première
démarrer,
partie,
donc
ça
ça
compte
peut
quoi.
aider, ou il y a des choses qui vont vraiment te faciliter certains objectifs. Voilà, par exemple, moi j'avais une faction qui me permettait d'aller très vite sur la factory, donc de récupérer une action de plus, donc de me faciliter ça. Par contre, j'étais très mauvais en militaire. Enfin, il y a des factions qui sont très fortes en militaire, et des factions qui sont très fortes en déplacement, et qui sont moins fortes après sur d'autres trucs. J'ai pas assez de parties pour dire si c'est vraiment déséquilibré ou équilibré. Ça m'a pas choqué aux 2-3 premières parties, ça m'a pas choqué. Il y a des factions que j'ai trouvées un peu plus fortes, mais c'est pas forcément celles-là qui ont gagné, parce qu'au
D'accord.
cours de la partie, ça va quand même vraiment s'équilibrer. Et faut savoir aussi que sur l'équilibrage, c'est aussi assez unique pour le souligner, c'est que le jeu a commencé à. Enfin, Jamie Stegmeier, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les backers et les joueurs. Et donc, il a commencé à envoyer des protos et des versions de son jeu il y a pratiquement 2 ans avant de lancer son Kickstarter.
Ouais, j'avais vu
Donc, il y a
ça.
beaucoup de monde en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont joué, qui ont fait des retours. Donc, il y a eu énormément, énormément de playtests avant de lancer le Kickstarter. C'est pour ça aussi, je pense que enfin, le jeu était très mature quand ils ont lancé le Kickstarter. C'est pour ça qu'il est arrivé très vite derrière aussi le Kickstarter. Et ça, c'est à noter parce que. C'est vraiment apprécié, en tout cas, tous ceux qui ont pu le tester avant et tous ceux qui ont backé. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié des joueurs. Il tient vraiment compte de l'avis et des retours que lui font les joueurs et il en demande vraiment beaucoup.
Il utilise vraiment le côté communauté de
Ouais,
Kickstarter, quoi.
vraiment, vraiment. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail, hein, mais t'as un système de combat, du coup, avec aussi des roues. En fait, t'as une échelle, enfin, t'as une. Oui, tu as une échelle de points de combat, donc tu vas monter ou descendre au fur et à mesure de la partie. Et quand un combat se déclenche, tu as une espèce de roue qui est numérotée de 0 à 7, et tu vas secrètement choisir une valeur que tu vas poser face cachée, à laquelle tu vas pouvoir rajouter une carte aussi, parce que tu peux gagner des cartes combat, une carte qui a une valeur entre 1 et 4, je crois. en fait, tu vas retourner, celui qui aura la valeur la plus forte va gagner le combat. Sauf que si tu as misé 7.
Oui, parce que là, forcément, je vais te dire, dans ce cas-là, je mets 7 tout le
Ouais, bah
temps,
si
quoi.
tu vas miser 7, bah en fait tu vas descendre sur ton échelle de combat, sur ta force de combat, tu vas descendre de 7. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un vient
D'accord.
t'attaquer derrière, bah, tu auras pratiquement plus de points de combat et tu pourras pas te défendre.
D'accord, en fait, c'est de ressources que tu engages quelque part, quoi. C'est de ressources militaires
Ouais,
que tu
voilà,
engages, quoi.
c'est ta force
Et que
militaire
tu
que
perds
tu perds
forcément,
quand tu
du
la
coup.
mises. Que tu perds quand tu la mises. Et en fait, ça sert à quoi les combats? Comme je te disais, ça sert un peu à mettre la pression et ça peut permettre de piquer des ressources aussi. Si tu vois que quelqu'un accumule énormément de ressources sur une case, si tu viens et que tu gagnes le combat, en fait, son mec et ses paysans éventuels désertent, donc ils vont se retirer sur la case de départ de la faction. Et toi, comme tu as le contrôle de la case, tu vas bénéficier de l'intégralité des ressources qu'il y a sur la case. Donc des fois, ça peut être très intéressant
D'accord.
d'aller se bagarrer un peu, mais j'insiste, c'est vraiment pas le cœur du jeu, hein. C'est vraiment un.
Plutôt, est-ce que c'est peut-être ce qui sert entre guillemets à faire l'équilibre entre joueurs, quoi. C'est-à-dire que le jeu, si ça se trouve, il est peut-être pas parfaitement équilibré. Enfin, je veux dire, mais attention, je défends pas, moi je défends pas forcément les jeux parfaitement équilibrés, hein. Je pense que des fois il y a des jeux qui sont trop équilibrés même. Mais peut-être que Scythe, c'est aussi un jeu qui s'équilibre par les joueurs, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues à 4, s'il y en a un qui est trop devant, il y a peut-être une partie de diplomatie aussi
Ah
qui
oui.
va entrer en
Ah oui,
ligne de
clairement,
compte
clairement,
et il y en a deux qui vont se mettre à taper sur le
il peut
premier,
y avoir
quoi.
des alliances, etc. Et c'est vrai que si quelqu'un amasse beaucoup plus de ressources que les autres, ben, c'est vers lui qu'on va être tenté d'aller se battre. Enfin, on va essayer de l'empêcher. Mais encore une fois, sur l'équilibrage, je ne sais pas si j'ai assez de parties, mais les scores sont pas hyper éloignés. Généralement, quand il y en a un qui arrive à sa 6e étoile, les autres en ont aussi 5, tu vois. Enfin,
Ils en ont 5, ouais.
c'est relativement équilibré là-dessus. Non, c'est vraiment un bon jeu. Je pense c'est un très bon jeu qui a une grosse courbe d'apprentissage. Vraiment, à la première partie, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas. C'est juste très riche et très dense. C'est-à-dire que la première partie, à chaque fois que tu vas faire un truc, faut bien checker que voilà, t'es tout bien fait correctement, que parce que t'as des capacités en fait qui arrivent aussi au fur et à mesure de la partie. Donc telles règles de déplacement vont être modifiées, tes règles de voilà de production vont être modifiées. Et voilà, ça c'est ce qui est dur en fait à assimiler sur les premières parties. Mais je pense qu'après 2-3 parties, ça devient vraiment très très fluide. Bon, c'est un gros jeu, hein. C'est des parties de deux, enfin c'est 2 heures à peu près quand même. Hein. Donc ça, à
Oui,
l'heure actuelle, ça devient du gros
c'est
jeu.
ce
Hein.
que j'allais dire, c'est quand même, enfin, on est quand même dans une période où on a tendance à
Ouais,
descendre
descendre la durée.
le temps de jeu, et là, ça, il fait quand même l'inverse, quoi. Enfin, en tout cas, c'est de ce que j'avais lu. On est plutôt à quoi, 30 minutes par joueur, en
Ouais, c'est à
fait.
peu près ça, ouais.
Toi, t'as joué tout le temps à
J'ai
4?
joué une partie à 3, une partie à 4 et une partie en solo en fait. Parce que
Ouais. C'est de combien? Je me
Alors
souviens plus si tu l'avais
c'est
dit.
de 1 à 5 en fait. Il y a un mode solo qui a été développé, qui est vraiment pas mal, qui est assez dur. Hein, bah, enfin, pour un mode solo c'est normal, c'est assez corsé. Et en plus
C'est le but, ouais.
c'est un mode solo où il y a 4 ou 5 niveaux de difficulté. Tu peux vraiment moduler le niveau de difficulté. Mais déjà le truc,
D'accord, ok.
pas le plus bas, mais le truc conseillé, c'est déjà du
Ouais.
costaud. Je me suis fait un peu poutrer par le jeu. Donc c'est 1 à 5 joueurs, sachant qu'il y a une extension qui arrive très bientôt, qui arrive
Ouais, j'en ai
normalement
entendu parler.
en novembre, et
Qui
qui
rajoute des
ajoutera deux
factions, c'est
factions.
ça? Deux
Donc on pourra
factions.
jouer jusqu'à 7.
Ah oui.
Donc à 7, je pense qu'il va falloir
Alors,
compter ouais, 2 heures et demie, 3 heures de jeu.
là, ça me fait penser à Eclipse,
Ouais, là ça fait un peu plus dur, mais non, mais à 4, honnêtement, il y en a pour un peu moins de 2 heures. Enfin, quand tu apprends à jouer, c'est un peu plus long. Je pense que des gens qui jouent fréquemment, tu tombes vers l'heure et demie, je pense, hein,
Est-ce que
facilement.
tu lui trouves des originalités à ce jeu, ou est-ce que finalement ça reprend quand même beaucoup de mécaniques existantes et c'est juste bien agencé, ou...
La plus grosse originalité que je lui trouve, c'est vraiment sur ces plateaux d'action qui sont vraiment différents. Et puis le fait que en fait à chaque fois que tu vas jouer, tu vas avoir une configuration propre qui est très différente en fonction de ta faction et de ce plateau de jeu-là. Ça donne quand même une
Ouais, ça,
rejouabilité qui est assez
enfin, ça
énorme.
sur la combinatoire, ouais. Enfin, ça, entre guillemets, c'est quand même un peu la solution facile pour faire de la rejouabilité sur un jeu, quoi.
Ouais, je suis d'accord, mais en fait, si tu veux, si tu prends les mécanismes et les éléments un par un, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses originales, mais la manière dont c'est articulé, puis vraiment l'efficacité avec laquelle c'est fait, je trouve que c'est vraiment Voilà, c'est pas le jeu le plus original de l'année, c'est clair, mais c'est un des jeux les plus efficaces et les plus aboutis de cette année, je pense.
En tout cas, c'est un jeu qui a clairement rencontré son public. Hein. Voilà, pour le coup, les gens ils l'ont eu sur
Ouais.
Kickstarter. Visiblement, ils ont déballé leur boîte et ils y ont joué. Hein. Pas comme
Ouais,
certains
clairement, et
Tokaido.
Ouais,
Mais.
mais ça, c'est parce que Tokaido, c'est différent, on connaissait déjà le jeu avant, donc
Ouais, en plus.
il n'y avait pas besoin de cette édition trop tardataire pour jouer à Tokaido.
Ce qu'on n'a pas
Bon,
dit quand même, c'est que le jeu pour l'instant il est uniquement en anglais.
oui, j'ai oublié de le dire. En fait, non, il est en anglais. Donc là, il était après le Kickstarter, il a été disponible notamment sur Philibert. Très vite sold out, hein, puisqu'avec les retours, et je pense qu'ils n'en avaient pas non plus des centaines de boîtes. Normalement, il est de retour en VO en novembre chez Philibert, à peu près en même temps que l'extension, qui sort normalement en novembre. Et il sera édité en français par Morning Player, qui avait déjà édité Euphoria.
Ouais.
Donc ça, c'est confirmé. Alors j'ai entendu parler de Descen, mais je sais pas
Non,
si...
c'est
Enfin, je
prévu
sais pas
pour
si...
novembre aussi en fait.
Novembre
Ouais,
aussi,
c'est
ok.
novembre la VF. Je
Et je
crois
pense qu'ils auront déjà
que.
peut-être un exemplaire
Je crois
de
qu'il est
démo
déjà
à
en
Essen.
précommande non sur Philibert. Ouais, c'est
La
marqué
VF, j'ai pas regardé la
début
VF.
novembre, prévu pour début novembre. Il y a
Pour la VF
72
aussi?
euros ouais, en VF
Ok.
chez Philibert.
Alors faut savoir que, bon, après, la VO, c'est pas... Il y a des cartes rencontres, en fait, puisqu'il y a des cases où tu vas rencontrer des gens, en fait. Et donc tu tires une carte rencontre, et là, tu as le choix entre trois actions, et tu as
C'est
un
comme
bit...
Tokaido.
Ouais, sauf que les cartes rencontres dans Tokaido, elles
C'était
sont
une blague.
imposées.
T'as pas goûté la blague là.
Si, si, j'ai compris la blague. Donc les cartes rencontres, en fait, c'est le seul élément où il y a vraiment du texte dans le jeu. Autrement, enfin voilà.
Oh, puis
Bon,
les...
c'est cool qu'il y ait une VF, hein. S'il garde vraiment le matos du Kickstarter, c'est chouette. Parce que, je le redis, c'est... Au niveau illustration et matériel, là on est vraiment sur du très très haute qualité. Bon, le prix est aussi, hein, c'est 70-80 euros. Donc le prix est là, mais voilà, le matos, c'est la boîte, le
Oui, parce que
matos, c'est vraiment pas des
t'as des
sous.
ressources. Non, non, dans les ressources, elles sont basiques, mais t'avais la possibilité d'avoir un kit spécial, c'est ça, non?
Oui,
De
en fait,
ressources.
alors
Et des pièces,
dans le jeu de
non?
base, tu as des pièces qui sont en fait des tokens carton, et tu as des ressources qui sont des ressources bois. Des petites ressources en bois qui sont déjà pas mal, hein, dans le jeu de base.
Ah,
Et tu avais
comme
la
dans Euphoria,
possibilité.
en fait, elles sont
Oui.
jolies, quoi. Elles sont vraiment
Non,
designées dans la
elles sont
forme de la
déjà.
ressource, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a la forme de la ressource, il y a la forme du blé, il y a la forme du petit baril de. Alors les ressources, c'est du blé, du baril de pétrole,
Oui,
du fer.
c'est du jaune,
Voilà.
du noir et du bleu, quoi.
Ouais, mais ça a la forme du ça a la forme du petit épi de blé, ça a la forme du
Ouais.
petit baril de pétrole, enfin c'est assez rigolo. Et donc oui, il y avait possibilité d'avoir des ressources un peu plus réelles et des pièces en métal aussi. Donc moi
T'as fait le all-in, c'est ça?
j'ai pu acheter ces trucs-là. Ouais, c'est pas mal joli, surtout les petits métals, c'est des vrais petits lingots de métal bien lourds là. Donc c'est rigolo, les pièces sont très jolies aussi. Et il y avait une extension aussi pour le plateau. En fait, il y a un recto avec le
Ouais.
plateau classique, et il y a le verso avec le plateau sur dîme, et il fallait acheter le petit complément pour le plateau sur dîme. Alors déjà, le plateau de base est assez
Attends,
énorme.
attends, ils te vendent un plateau sur 10, mais en plus, il faut que tu rajoutes un truc dessus. Ça, c'est du
Ouais, bah
sacré
de base, en
marketing quand
fait,
même, hein.
de base, t'as pas le plateau sur dîme, t'as le plateau
Oui, bien
classique
sûr.
d'un côté, et quand tu retournes, t'as le plateau sur dîme, mais qui est incomplet. Et du
Ah,
coup,
d'accord, ok,
voilà.
pardon, ok, d'accord,
Tu
oui, ok, d'accord, j'avais pas
achètes le
compris.
parti, tu achètes la partie
La partie
manquante du plateau
manquante,
sur
ok.
dîme, qui est déjà en fait sur le plateau de base de l'autre côté.
D'accord. Du coup, ce qui fait que c'est moins cher
Ah oui,
que
c'est
si t'achetais
une
vraiment le plateau
dizaine,
à part, quoi.
10 ou 12 $ l'extension du plateau.
Ouais. Ah, c'est bien vu, ça.
Ouais, c'est il y a Outlive qui a fait la même chose aussi sur son
D'accord.
Kickstarter. Et c'est pas mal, en fait. C'est déjà le plateau de base est très grand, hein. Moi, j'ai une assez grosse table, ça prend déjà une bonne partie de la table. Voilà, ça aussi, il faut une très grande table parce
C'est-à-dire que t'as acheté le
que.
plateau sur 10 mais il rentre pas, c'est ça, sur ta table?
Si, chez moi, il rentre, mais après, pour
Après,
placer
tu peux
tes
plus
plateaux de
jouer, c'est ça?
faction, tes ressources et tout, c'est compliqué. Non, mais il est vraiment très grand. Mais après, c'est vrai que quand tu commences à avoir des cases où t'as ton héros, un mec, plusieurs paysans et pléthore de ressources, bah après,
Du mal à
t'as
te mettre
des.
dedans, quoi.
Ouais, mais t'as des. Je sais plus comment ça s'appelle. T'as des multiplicateurs en fait de ressources. C'est-à-dire que tu
D'accord,
peux
ok.
avoir un bois et t'as des petits jetons qui disent ben, x3 pour savoir que t'en as 3. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir le bon nombre de ressources sur le plateau.
Oui, je suis
Enfin
d'accord.
voilà, c'est un coup de cœur pour moi et pour beaucoup de monde, je pense, en ce moment. C'est un jeu très beau, très efficace, Enfin, il a vraiment beaucoup de qualités.
Bon bah va falloir
Ah.
gérer ça alors.
Ouais, alors c'est un gros jeu de stratégie, c'est un gros jeu de stratégie quand même, où il y a vraiment beaucoup de. C'est de l'optimisation, hein. Faut vraiment en fait arriver à faire le plus de choses possible
Oui,
en moins d'actions
c'est ce que j'allais
possible.
dire à un moment, c'est ça auquel je pensais. En fait, finalement, l'intérêt du jeu, il est peut-être plus dans l'optimisation de tes capacités,
De tes actions, de tes capacités, ouais.
de ta faction et de ton plateau. Je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt, en fait, dans la réflexion du joueur. En fait, c'est de trouver la bonne piste, en fait, pour
C'est ça.
optimiser ses pouvoirs, en fait.
En fait, les petits plateaux là d'action, ils ont des noms chacun. En fait, il y en a un, c'est plutôt le truc agriculture, l'autre c'est
D'accord.
industrie. Enfin, tu vois, ils ont des
C'est
noms et donc
thématisé, quoi.
ils sont thématisés par rapport aux actions qui vont être moins chères que d'autres. Et alors, le petit truc, ça mange vraiment pas de pain, mais j'ai pas vu ça dans beaucoup de jeux, voire j'ai jamais vu ça dans les jeux. Un truc qui est très agréable aussi qu'ils ont mis, c'est une petite feuille, un peu un Hall of Fame. Avec différents objectifs, en disant le premier qui a gagné avec chaque faction, et en fait à chaque partie tu remplis une ou deux cases.
Je
Le
l'ai
premier qui a
vu
gagné à telle
dans.
année, le premier qui a. Voilà, t'as une page recto verso avec pas mal de
Ouais.
conditions. Le premier qui a gagné 100 mètres, c'est 6 étoiles. Enfin,
Ouais,
y a
je
plein
crois
de
que
trucs comme
alors je
ça.
l'ai vu dans un autre jeu, mais je crois que c'est peut-être bien Euphoria, justement,
Ah bah, c'est possible.
du même éditeur.
C'est
Ouais,
possible.
je crois que c'est Euphoria.
Mais ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais ça rajoute un peu le côté, bon, bah, j'ai mon suivi de partie, qui a
Ouais.
gagné la première en telle année, qui a eu gagné avec cette faction-là en premier. Enfin, c'est vraiment un petit truc en plus, mais je trouve ça vraiment fun.
Ah, c'est le côté achievement, quoi.
Ouais,
Ah,
c'est
mais c'est
ça.
bien,
Bah, c'est ça,
je
c'est
trouve
tout à
ça
fait ça. Ça
sympa.
reprend les achievements des jeux vidéo et je trouve ça vraiment rigolo. C'était la petite parenthèse.
Très bien, bah écoute, super. Alors, du coup, Scythe, alors donc tu nous rappelles un petit peu, ouais.
Donc le petit résumé, ouais, Scythe, donc c'est un jeu de Jamie Stegmeyer et illustré par Jacob Rosalski, qui a été édité par StoneMeyer via Kickstarter et qui sera disponible en France chez les Morning Players. Un jeu de stratégie donc pour 1 à 5 joueurs, avec une extension jusqu'à 7 joueurs qui sort en novembre.
Merci beaucoup BenoFX.
Bah merci à toi Cyrus et puis ravi d'avoir fait cette première chronique
Et
avec
ben
toi.
moi aussi, c'était super. Écoute, ben voilà.
J'espère que les auditeurs ont apprécié.
Vient de finir donc cette première chronique ensemble. Alors voilà, on a essayé de d'écouter un petit peu ce qu'on nous a dit. On essaie de le plus possible, en tout cas, de faire les chroniques à deux. Alors forcément, c'est plus long. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'on sortira ça dans un épisode à part. On va voir un peu comment on va organiser ça, puisqu'on Chez Proxy, on est
Peut-être plus en plus de
sans
monde.
cesse en reformation, en changement de format dans tous les sens. On cherche toujours un peu ce qui est le mieux, et étant donné que notre structure aussi est en mouvement, on accueille de plus en plus de monde, il faut bah en profiter. Et voilà, on trouvait que c'était intéressant de faire la chronique à deux, qu'il y ait un peu de discussion, que ce soit un petit peu plus dynamique. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis, et ben. À la prochaine fois, et d'ici là,
Jouez
jouez
bien.
bien!